Donc moi, je vais vous parler effectivement de l'optimisation du timing de ces transfusions, avec toute la difficulté qui va être de prédire la survenue d'une anémie dans les contextes de risque d'anémie et d'alloimmunisation. Donc comme on l'a vu, donc l'anémie, les risques, c'est la nasarque, la mort fœtale. Les méthodes historiques, c'est se baser sur le taux d'anticorps, les signes de la nasarque, le rythme amniosynthèse, tout ça, c'est plus du tout d'actualité comme on l'a déjà vu ce matin. Ce qui a un peu révolutionné les choses, c'est qu'en 2000, Giancarlo Marini, avec toute l'équipe collaborative sur l'anémie fœtale, ont décrit pour la première fois l'utilisation du Doppler et de la mesure du pic systolique de vélocité de l'artère cérébrale moyenne comme un moyen fiable de diagnostiquer l'anémie fœtale de façon non-invasive. Donc, ils ont dans ce travail pu établir d'abord les normes d'hémoglobine fœtale en fonction de l'âge gestationnel. Et ils ont pu mettre en évidence que par l'utilisation de ce pic systolique, on pouvait mettre en évidence chez les fœtus dont le pic systolique est supérieur à 1,5 multiple de la médiane pour l'âge gestationnel, on pouvait prédire une anémie avec une sensibilité de 100%, une valeur prédictive positive de 65% et un faible taux de faux positif qui était de 12%. Donc là, voilà. Donc, juste quelques écueils techniques qu'il faut bien connaître, parce que c'est le seul moment où on va un petit peu en parler. Cette mesure, elle est effectivement très fiable chez des fœtus non préalablement transfusés, mais il faut toujours bien être dans l'axe du vaisseau, car une modification d'angle de plus de 15 degrés va pouvoir diminuer significativement la valeur. Donc, il faut vraiment être dans l'axe. Il faut se mettre dans la portion proximale, parce que du fait de phénomènes d'amortissement, au niveau du vaisseau, on peut perdre jusqu'à 20% de la valeur du pic si on se met dans sa portion distale. À l'inverse, on va pouvoir artificiellement augmenter cette valeur s'il y a des mouvements fœtaux très importants, si on appuie sur le pôle céphalique. Et se pose toujours la question chez les fœtus avec un grand retard de croissance et une grande redistribution cérébro-placentaire sur la présence parfois de pics accélérés alors qu'il n'y a pas d'anémie. Chez des fœtus qui n'ont jamais été transfusés, on se base sur le pic dans les situations à risque d'anémie fœtale. Quand le seuil de 1,5 multiple de la médiane est passé, on organise une transfusion. Le problème, et on l'a vu ce matin, de plus en plus de fœtus vont avoir besoin d'être transfusés très tôt dans la grossesse et on va avoir besoin de répéter les transfusions chez ces fœtus. Comment alors décider du moment pour programmer les transfusions suivantes? On peut soit décider d'utiliser le pic systolique, et donc des études ont montré que le pic systolique était a priori encore valide au-delà de 2 voire 3 transfusions in utero, ou à l'inverse, d'autres équipes, notamment l'équipe de Nicolaïdès, proposent de plutôt se baser sur le taux attendu de décroissance de l'hémoglobine. Ils parlent généralement de 0,35 g par décilitre par jour, et à partir du taux d'hémoglobine post-transfusionnel, de calculer à quel moment le fœtus sera à nouveau anémié, et de programmer la date de la transfusion selon ce protocole. Initialement, nous, on n'avait pas vraiment la réponse. D'autres études ont pensé qu'éventuellement le pic systolique pouvait présenter une perte de sensibilité chez des fœtus préalablement transfusés, du fait notamment de modifications rhéologiques, que les hématies adultes ne sont pas les mêmes que les hématies fœtales, qu'éventuellement on pouvait perdre un peu en fiabilité en utilisant le pic systolique chez les fœtus préalablement transfusés. Nous, on s'est aussi posé la question de savoir si d'autres facteurs pouvaient affecter la prédictivité du pic, et notamment l'âge gestationnel, parce que bien sûr, plus on va transfuser des fœtus, plus ils vont être âgés du point de vue de la grossesse. Et est-ce qu'il y a la même performance du pic systolique chez des fœtus qui sont plus vieux? Et donc, on s'est posé la question un peu d'évaluer la performance de chacune des deux méthodes qui existent pour essayer de trouver les meilleurs critères d'intervention et minimiser bien évidemment le nombre d'interventions sans rater des fœtus sévèrement anémiques qui auraient besoin d'être transfusés. Donc c'est une étude qui a été faite donc, au CNRHP, rétrospective monocentrique. En fait, on a élargi jusqu'à 2012, j'ai oublié de remettre à jour. Par contre, là, les données sont bonnes, c'est bien 200 transfusions réalisées chez 111 patientes. Plus de 96 patientes ont bénéficié de au moins une transfusion, 67 plus de 2 transfusions et 38 patientes plus de 3 transfusions. Il s'agissait essentiellement d'alloimmunisation RH1, en deuxième ligne, quasiment un quart de patientes KEL et quelques patientes qui présentaient uniquement des RH4 ou d'autres alloimmunisations. Et nous avions utilisé une définition d'une anémie sévère comme un taux d'hémoglobine exprimé en multiple de la médiane, inférieur à 0,5 multiple de la médiane pour l'âge gestationnel. Donc, On a d'abord essayé de regarder s'il y avait une conservation de la corrélation entre le pic systolique de vélocité en multiple de la médiane et l'hémoglobine en fonction du rang de transfusion. On a pu mettre en évidence qu'il y avait une corrélation significative qui persistait, que ce soit au moment d'une première, d'une deuxième ou d'une troisième transfusion. Donc, en théorie, on a un test qui est toujours valide, même au-delà de deux transfusions, si on regarde les choses comme ça. On a aussi regardé les courbes ROC en fonction du rang de transfusion et on voit que les aires sous la courbe ne différaient pas du tout significativement. Et donc, on a eu l'impression aussi initialement qu'on pouvait dire que c'était toujours fiable. Par contre, on s'est ensuite intéressé un petit peu, pour avoir vraiment les bons chiffres, à la sensibilité et notamment et surtout à la valeur prédictive positive de notre test, parce que notre but, comme je vous le disais, est d'éviter des gestes inutiles, compte tenu des risques dont Lucie vous a déjà parlé, tout en ne ratant pas des fœtus anémiés. Donc plus que la sensibilité, c'est finalement la valeur prédictive positive qui nous importe. Donc en termes de sensibilité, le seuil de 1,5 mm qui est généralement utilisé, on garde une très bonne sensibilité au moment d'une première, d'une deuxième, troisième transfusion. Par contre, on voit que la valeur prédictive positive, qui est de l'ordre de 75% au moment d'une première transfusion, diminue significativement et on n'a plus que 50% de fœtus qui sont authentiquement anémiés quand on les dépiste par cette méthode. On a essayé de trouver un meilleur seuil et donc le seuil de 1,73 mm est ressorti avec une sensibilité qui est un petit peu moins bonne. Mais par contre, quand on regarde au moment d'une deuxième et d'une troisième transfusion, avec ce seuil, on a une VPP qui est de l'ordre de 70, voire près de 80% au moment d'une troisième transfusion. Néanmoins, on a du mal à dire qu'il faut complètement changer de seuil parce qu'il y a quand même un certain nombre de fœtus qui sont avérés authentiquement anémiés, 7 en l'occurrence, qui n'auraient pas été dépistés avec ce seuil si on l'avait utilisé. Pour l'effet de la gestationnelle dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt, on a essayé de voir si effectivement on était moins bon chez les fœtus plus âgés. Et donc là, les données prises chez les fœtus au moment d'une première transfusion, donc qui n'ont pas été préalablement transfusés, et on voit qu'on a une nette diminution de la valeur prédictive positive du pic systolique au-delà de 28 semaines. On est à près de 90% avant 28 semaines et on baisse à quasiment 60% après 28 semaines. Donc il y a vraisemblablement aussi un effet de l'âge gestationnel dans la moins bonne performance du pic systolique chez les fœtus d'une façon générale, indépendamment du fait qu'ils aient été transfusés ou pas. Deuxième technique, le taux de décroissance attendu d'hémoglobine fœtale. Donc, on a établi à partir de notre série le taux de décroissance après une première transfusion qui était en moyenne de 0,45 g par décilitre par jour. Et on a pu observer qu'au-delà de deux transfusions, ce taux de décroissance diminuait de près de 25% pour se stabiliser aux alentours de 0,30 à 0,35 g par décilitre par jour. Donc vraisemblablement, il y a une hémolyse qui est plus importante au début et qui a tendance, au fur et à mesure du remplacement des hémacies fœtales, à diminuer et se stabiliser vers un taux qui est de l'ordre de 0,3 et qui recoupe les données qui avaient été publiées par l'équipe de Nicolaides en Angleterre. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que, donc, comme je vous l'ai dit, taux de décroissance plus important, la récidive d'une anémie sévère, donc un taux d'hémoglobine inférieur à 0,5 mm, survient plus tôt. Mais surtout, on a une beaucoup plus grande dispersion du délai avec lequel va survenir cette anémie. Donc, on ne va pas être très bon pour programmer une deuxième transfusion si on se base juste là-dessus, parce qu'on voit très bien qu'on n'est pas pertinent, on a une fenêtre très large. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que chez les fœtus qui ont déjà été transfusés deux fois ou trois fois, on a une fenêtre de récidive qui est plus réduite et il semble qu'on va être plus fin dans notre calcul pour bien organiser la transfusion. Et c'est vrai que c'est important pour nous parce que Lucie vous l'a déjà dit, mais il y a beaucoup de patientes qui ne sont pas forcément suivies dans notre centre. Elles viennent parfois de loin, de Saint-Brieuc, de Poitiers, de plein d'endroits différents. Et il y a toute une logistique en amont à mettre en place pour organiser les transfusions et le suivi de ces patientes. Et donc, le timing, c'est quelque chose de vraiment important parce qu'il y a des trains, des chambres d'hôtel, des chambres d'hospices à réserver. C'est pas simple. Donc, on essaye vraiment, et je vais vous le montrer, de trouver le meilleur compromis. Une dernière chose qui est extrêmement intéressante par rapport à ça, c'est qu'on a quand même essayé de voir s'il y avait toujours une corrélation entre l'hémoglobine observée au moment de la transfusion et l'hémoglobine attendue par rapport au taux de décroissance au moment d'une deuxième et troisième transfusion, et on avait toujours une corrélation significative. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu nouveau et que nous, on utilise vraiment en pratique. On a pu mettre en évidence que pour un même fœtus, quand on regarde le taux de décroissance entre la première et la deuxième transfusion, et la deuxième et la troisième, il y a une corrélation significative. Et vraisemblablement, il y a des fœtus qui vont être des hémoniseurs lents et des fœtus qui vont être des hémoniseurs rapides. Alors, il y a forcément le contexte immunologique qui joue, mais sûrement pas que, et on n'a pas forcément le moyen de le savoir à l'avance, si ce n'est voir le taux de décroissance et s'en servir comme un outil supplémentaire pour programmer les prochaines transfusions. Donc, un message assez pratique, il n'y a pas de méthode miracle, surtout chez des fœtus préalablement transfusés, pour programmer les transfusions suivantes. Nous, on utilise concrètement maintenant une méthode vraiment combinée. Pour la première transfusion, fœtus jamais transfusé, toujours le pic systolique, ça c'est évident, tout le monde est d'accord là-dessus. Au-delà d'une transfusion, le pic systolique garde une valeur vraiment pertinente. Et donc, on continue la surveillance hebdomadaire du pic et on programme la deuxième transfusion en se basant uniquement sur ce pic, dès lors qu'il est supérieur à 1,5 multiple de la médiane. Au-delà de deux transfusions, on préprogramme les transfusions avec un taux de décroissance attendu qui est donc aux alentours de 0,3, qu'on pourra revoir à la hausse si on voit par exemple qu'au lieu d'être autour de 0,45, le fœtus entre la première et la deuxième transfusion a perdu 0,7 ou 0,8 grammes par jour. On va revoir ce chiffre à la hausse pour organiser la troisième transfusion. On vérifie toujours les vitesses le jour de la transfusion parce qu'il y a une chose que j'ai oublié de souligner dans le tableau, c'est que par contre, peu importe le rang de transfusion, la valeur prédictive négative du pic reste excellente à plus de 90%. Donc, autant la valeur prédictive positive, la sensibilité, on ne va plus en tenir compte, mais un fœtus qui n'a aucun signe indirect d'anémie et qui a des vitesses inférieures à 1,5 multiple de la médiane, on va essayer de sursoir pour gagner du temps. Donc, c'est en ça qu'on va encore se servir du pic chez les fœtus qui ont déjà eu deux transfusions, et de sorte à minimiser le nombre de gestes. Donc voilà, c'est ce qu'on utilise maintenant. J'espère que ça pourra vous servir dans vos centres. Mais c'est vraiment comme ça qu'on fonctionne à Trousseau maintenant et ça marche plutôt pas mal, je pense qu'on peut dire. Voilà, je vous remercie.